Hey, bienvenue sur Ad Radio.
Aujourd'hui, on est en présence de Iliane. On va vous parler de...
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous pensez aux conséquences du réchauffement climatique ?
Ça fait peur, mais pour les générations à venir, parce que moi, je suis pas vraiment concerné par ça.
Je dis qu'on est bien dans la merde.
Je pense aux jeunes, à leur avenir, à mes enfants, à toute la jeunesse.
Je sais pas, il fait chaud, non ? Genre la chaleur revient et tout. C'est dangereux, parce qu'il y a la mer à côté, il y a les lacs et tout. Et ça monte l'eau.
Attends, mais pourquoi t'as lancé le son ?
Mais parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est l'éco-anxiété. C'est ce que les gens viennent de nous montrer.
Ouais, t'avais raison de le lancer. On peut se présenter maintenant.
Bah nous, on est un groupe de jeunes qui travaillons à la maison des ados. On fait un peu de radio. Et on travaille sur le thème de l'éco-anxiété.
Vous allez voir que le sujet, il est gigantesque.
Et c'est pour ça que vous allez entendre des micro-trottoirs, des témoignages et même une interview.
Et vous allez voir qu'on a tous des avis différents sur l'éco-anxiété.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous pensez aux conséquences du réchauffement climatique ?
Je pense que nous sommes des criminels. On ne récoltera que ce que l'on a semé. On a travaillé sans faire attention à la terre. Elle nous a supportés, mais on l'a trahi quand même. On regardait notre intérêt, l'intérêt de nos enfants. Mais le soleil, c'est vrai qu'il se lève tous les jours à l'est et se recouche à l'ouest. Mais entre-temps, avec tout ce qu'on a produit comme usine,
toutes les plantes qu'on écrase,
tous les détergents qu'on jette un peu partout,
que l'on verse à outrance.
Moi, je pense que si on ne se réveille pas d'ici 10 ans, ce sera
Bonjour,
la catastrophe.
Alors, le réchauffement climatique, c'est de la merde. On s'en tape.
Alors, c'est ce que vous pensez.
Ça fait flipper. C'est un peu un désespoir, plutôt. Il y en a beaucoup, tu peux comprendre, qu'ils n'ont pas envie de continuer. Mais en fait, c'est débile. Moi, ça me fait peur. Voilà.
Moi, j'ai un petit-fils. J'aimerais bien qu'il puisse sortir dehors, dans la nature, faire la différence entre une marguerite et un coquelicot. Aller voir les petites rivières, les petits poissons. Mais je ne sais pas s'il pourra avoir la chance de voir tout ça.
Avant, je pouvais jouer dans la neige avec mon grand-père. Aujourd'hui, impossible de voir un flocon de neige tomber du ciel. Et demain ?
Avant, cette montagne était la plus haute piste de ski des Andes. Aujourd'hui, c'est un massif de terre sèche et de broussailles.
Avant, le climat de chez moi n'était pas adapté aux palmiers. Aujourd'hui, c'en est rempli.
Avant, les plages à Salou, elles étaient propres et cool. Aujourd'hui, elles sont sales, il y a des mégots et des couches. Et demain ?
Avant, après de longs trajets, je devais nettoyer les phares de ma voiture, noircis de moustiques. Aujourd'hui, s'il y a du noir, ce n'est que de la pollution.
Avant, autour de la maison, il y avait des champs de cerisiers et des chevaux. Aujourd'hui, il y a des immeubles et des scooters.
Avant, 6 continents. Aujourd'hui, 7 continents.
Et demain.
Éco-anxieux ? Ah non, moi je suis éco-furieux. De la colère, je n'ai que ça à revendre face à l'état critique dans lequel se trouve toute cette planète et ses êtres vivants. Pourquoi de la colère, me direz-vous ? Eh bien parce que c'est certains êtres humains et leur pathétique avidité de richesse et de pouvoir qui nous ont tous condamnés au fossé. Je suis éco-furieux parce que c'est les grands, comme on dit, c'est-à-dire les puissants, qui gèrent l'entreprise humaine et son impact sur le monde. Je suis éco-furieux car c'est eux qui commandent l'extraction des ressources de la Terre, le commerce mondial excessif, la destruction massive des écosystèmes, l'exploitation intensive des espèces animales et la production de richesses toujours plus grande. Je suis aussi éco-furieux vis-à-vis de tous ces moralisateurs écolos quand ils accusent et font la leçon à toutes les catégories sociales. Au final, leur discours, il est rempli par l'ignorance et dénué d'humanité. Donc oui, je suis éco-furieux. Et finalement, quand je pense à la Terre qui souffre, à tous ceux qui souffrent à cause de ce dérèglement climatique, je suis surtout éco-triste.
Ado Radio. Allez, viens dire ton mot.
Ado Radio.
Moi, j'écoute pas les discours actuels sur l'écologie. Je trouve que c'est du blabla. Personne s'y met vraiment à l'écologie malgré les belles paroles. Alors, pourquoi je ferais des efforts pourquoi que moi? Pourquoi pas les autres? Je me dis que, foutu pour foutu, je suis pas responsable du pétrole ou du charbon qui pollue partout. Ça fait depuis trop longtemps que ça dure. J'étais pas là au début et je crois que c'est trop tard. La planète, c'est mort. La preuve, je vois que les riches comme Elon Musk, ils imaginent déjà partir sur une autre planète pour s'en sortir. Mon sentiment, sincèrement, c'est la tristesse. Je suis dégoûté, vraiment. Et puis, pour être honnête, j'ai aussi de la colère contre la génération au-dessus. Ils en ont bien profité, mais ils détruisaient la planète. Et maintenant, c'est sur nous que ça tombe. Je sais pas si j'ai envie de rattraper toutes leurs conneries.
Bonjour, docteur Bress. On est là aujourd'hui pour vous interviewer un petit peu sur votre métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un psychiatre ?
C'est un médecin qui est, comme tous les médecins, chargé donc de faire des diagnostics à partir d'un certain nombre de signes dont il dit que ce sont des symptômes de maladie. Ce qui fait que le signe n'appartient plus à ce moment-là au patient, il appartient à la maladie, ça devient un symptôme. Et son boulot, c'est de traiter ensuite la maladie et de faire un pronostic. La deuxième partie, que j'aime pas beaucoup non plus, c'est quand même le seul médecin qui a un pouvoir de répression. Soit l'enfermer, soit le priver de liberté, soit l'obliger à des soins. L'autre partie, c'est qu'on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle l'aide sociale. C'est-à-dire on est là aussi pour aider les gens et leur permettre de bénéficier davantage d'aménagement de la réalité pour aller mieux. Ils peuvent avoir accès à des emplois protégés, tout ça. Enfin, voilà, ça, c'est le psychiatre qui peut le faire. Donc, c'est une fonction à la fois de contrôle social, d'accompagnement et bien évidemment de soins.
Ouais.
Alors, pour être psychiatre, il faut faire des études de médecine. Et puis après, on fait des études de psychiatrie pour apprendre à voir si quelqu'un à des troubles qu'on peut éventuellement soigner et d'autres choses qu'on peut accompagner. Mais on déborde aussi de notre métier parce que j'y tiens beaucoup. Le psychiatre n'est pas qu'un distributeur de médicaments. Donc c'est un métier qui est presque un métier de funambule. C'est-à-dire on est sur un fil entre la pharmacologie, c'est-à-dire les médicaments, la psychologie. Et voilà. Donc c'est pour ça que les psychiatres ont l'air toujours un petit peu chancelants, parce qu'effectivement, ce sont des funambules sur un fil.
C'est vrai, voilà. C'est fort. Donc nous, aujourd'hui, notre thème, vous allez voir, il est un peu bercé par l'anxiété. Le thème sur lequel on travaille, c'est l'éco-anxiété. On aimerait vous faire écouter un témoignage d'un jeune qui travaille à la maison des adolescents avec nous à la radio.
J'ai 14 ans, et moi, face à l'avenir de la planète, je ressens plusieurs émotions. Pour commencer, je suis indifférent. Je me dis que dans tous les cas, si une catastrophe climatique arrive, c'est que ça devait arriver et puis c'est tout. Je serai pas le seul à disparaître. Ensuite, je deviens anxieux, parce que j'imagine l'avenir de mes proches dans un monde pareil. Encore après, je ressens de la colère. Je me dis que très peu de personnes font des efforts et ça m'énerve. Là, je me rends compte que l'indifférence dont je parlais tout à l'heure, c'était un auto-mensonge. Une façon de se mettre des œillères pour éviter d'être face à face avec le problème. Et puis j'en ai un autre de sentiment, je me sens coupable. Je me dis que tout ce que je fais a des conséquences sur les réchauffements climatiques. Commander sur un site hors Union Européenne, acheter des produits alimentaires non français, etc. Bref, l'éco-anxiété c'est peut-être ça en fait. Un mélange de sentiments ou d'opinions qui peuvent même se contredire entre eux. Et c'est un sacré bazar dans la tête.
Alors voilà, c'est le témoignage de Félix sur l'éco-anxiété. Quelle est votre réaction à vous quand vous écoutez ce son ?
Eh bien, je pense à ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est le pouvoir de l'homme sur la nature. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la biocène, hein, c'est-à-dire que c'est la nature qui commandait. Et nous, on s'adaptait comme on pouvait aux lois de la nature. Et là, on s'aperçoit que c'est l'homme qui... On arrive à détourner des fleuves, on arrive à faire pousser des roses dans le désert, on arrive à faire énormément de trucs qui font qu'on dirige la nature. Sauf que la nature se venge. Elle ne se laisse pas faire. Voilà, donc c'est la première idée qui me vient. La deuxième idée, c'est qu'on est devant un phénomène qui nous échappe. On est partagé entre l'envie de faire quelque chose et l'impression que quoi qu'on fasse, ça ne sert à rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. Il le dit, hein, le Félix, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Il le dit bien. À la fois, je me sens coupable et en même temps, j'ai l'impression d'avoir rien à faire.
Est-ce que vous recevez des jeunes qui sont éco-anxieux ?
Non, non, non. Du moins, ils ne le disent pas comme ça. J'en reçois beaucoup de jeunes qui ont du mal à penser à leur avenir, qui sont très souvent très, très mal, quoi. Alors, effectivement, je trouve qu'on en fait trop, quoi. On vous raconte trop que la Terre va disparaître, que le 21e siècle ne va pas durer 100 ans, que bientôt, il n'y aura plus de quoi nourrir les habitants de la Terre et tout de ce style. Ce n'est pas enthousiasmant comme truc. Alors que moi, ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes que je rencontre, c'est que... il y a peut-être la mort, la disparition, évidemment. Tu vas mourir, mais avant, il y a du temps à passer. Quoi.
Voilà, il faut profiter de la vie.
Et le temps, c'est à toi de le construire. Mais effectivement, il y a peut-être cette anxiété, c'est est-ce que on va avoir suffisamment de temps pour construire ? Et finalement, est-ce que ça vaut le coup, quoi ? Voilà, donc, mais je ne rencontre pas de jeunes qui me parlent de cette affaire. Mais moi, j'aimerais que le discours écolo, je dirais au sens large, soit un discours de prévenance. C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les jeunes en leur disant « on vous accompagne pour le meilleur et non pas pour éviter le pire ». Le meilleur, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que les jeunes, vous avez suffisamment d'idées, de neurones et de désirs pour faire quelque chose de ce qui va arriver, quoi. Et que peut-être on dira, ben finalement, cette histoire-là est intéressante parce que ça fait prendre conscience à beaucoup de gens de l'importance de la planète, de l'importance de la fraternité entre les gens. Et donc moi, je ne pourrais pas participer à la création. C'est vous qui allez le faire, hein, mais... j'aurais bien aimé, moi, continuer à bricoler un peu pour savoir ce qu'on pourrait faire pour sauver les coquelicots, les phoques et tout ça, enfin, tout ce qui est menacé. Ouais.
Et est-ce que vous pensez que l'éco-anxiété, elle peut avoir un impact sur la santé mentale des gens ?
Oui, surtout les ados, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que je connais de plus en plus d'ados qui n'ont pas envie de devenir adultes, quand même. On est dans un monde qui fait que, justement, on provoque le flou dans le flou.
Du coup, avez-vous des solutions, en fait, pour apaiser cette anxiété ?
C'est de parler, quoi. C'est-à-dire que la parole, ça permet de mettre les choses à distance. Je prends un exemple tout bête. Hein. Un petit gamin se promène avec sa mère, comme ça, puis il y a un énorme bruit, tout ça, qui le terrifie, quoi. Le gamin est mort de peur, et sa mère lui dit, mais c'est le tonnerre. Ce qui fait que la fois suivante, il entend un bruit terrible... Il a toujours peur, mais il dit « c'est le tonnerre ». Donc je crois que le fait de parler, c'est intéressant. Mais de parler de quoi ? De parler de soi, hein. Pas forcément de parler de la pluie et du beau temps, hein, et des catastrophes à venir, mais de parler de soi. Pas pour chercher des explications ou quoi que ce soit, mais pour poser des mots qui mettent les choses un peu à l'écart. Parce que je le dis à beaucoup d'ados qui ne s'aiment pas parce qu'ils se font du mal et des trucs comme ça. Je dis « tu sais con que tu ne t'aimes pas, parce qu'il y a une personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi ». Alors, essaie de t'apprécier un petit peu, de regarder qui tu es, d'où tu viens, mais de le regarder avec un regard plus sympathique, quoi. Et ne pas rester tremblant dans sa maison en disant « je ne sors pas parce que le monde est devenu hostile. Si je sors, je vais choper le Covid. Si je sors, je vais me faire agresser. Si je sors... » Non, on ne peut pas vivre comme ça, quoi. L'autre... La personne que l'on rencontre, celui qui n'est pas comme nous, est quelqu'un qui est susceptible de nous enrichir.
Ouais, donc vous dites qu'il faut parler. Or, c'est vrai qu'il y en a qui veulent faire quelque chose, qui sont plus dans le mouvement, dans l'action. Ouais, ouais. Moi, je voudrais vous demander quel est votre avis sur lutter contre l'anxiété par l'action, justement.
Alors moi, je pense que c'est très bien. Et c'est très bien parce que je parlais de parole, mais la parole, ça nécessite une pensée, c'est-à-dire... Pour penser, il faut se bouger la tête. Mais pour se bouger la tête, c'est très important de bouger son corps. Et moi, je trouve que marcher, bouger, s'activer, c'est tout ça. Ça permet non seulement d'activer sa pensée, mais ça permet de penser. Alors, s'activer, pas forcément pour faire des trucs utiles pour la planète, entre guillemets.
Oui, oui.
Hein, mais déjà s'activer, déjà bouger, quoi.
Bah, merci beaucoup hein, pour ce témoignage et vos réponses qui ont été très riches. Ouais. C'est super agréable pour nous de pouvoir recevoir quelqu'un.
Et moi, ça me fait très plaisir de parler des ados, surtout
avec
des
ados. Merci beaucoup.
Ah bah oui.
Franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire.
Ben, si, il faut dire, justement, il faut que les choses laissent à désirer. Voilà, ouais, hein, que vous ne soyez pas comblé par les réponses. Changer, éventuellement modifier, ajouter, enrichir ce que j'ai dit. Ouais.
En tout cas, ça nous a enrichi.
Ok.
Merci beaucoup.
Merci.
J'ai 22 ans. Quand je pense à l'avenir de la planète, je pense à l'enfer. Aux catastrophes naturelles qu'on a vécues ou qu'on va vivre. Mais en pire. La canicule, les incendies de forêt, les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations. Bref, en vrai, j'ai l'impression que quand on n'a pas vécu ça, on ne prend pas conscience des dégâts possibles. On ne ressent pas cette peur. Moi, j'ai vécu plusieurs inondations au Maroc. Dans ma maison, quand il pleut, l'eau rentre partout. C'est la cata. Les rues deviennent des rivières. Les voisins qui ont des maisons les plus vulnérables se réfugient chez les autres. Il y a des grands dégâts matériels. Ce vécu me permet de prendre conscience de l'impact du changement climatique. Aujourd'hui, je regarde, je lis, j'entends des infos et je ne suis pas indifférent. J'essaye de prévenir mon entourage, qu'il fasse attention à notre planète. J'ai aussi appris qu'il y a des solidarités en cas d'urgence. J'ai vu des gens rendre service. Aujourd'hui, quand il pleut dans mon village, il y en a qui veillent pour que les autres dorment. C'est aussi ça que je veux retenir.
Est-ce que ça vous pousse à faire quelque chose ?
Ben, au quotidien, je fais déjà des choses, rien que le tri sélectif, jette pas de papier, je ramasse les papiers des autres, je fais des petites choses comme ça.
Ouais, limiter le plastique, essayer de trucs, les plus de choses en carton.
Moi, depuis tout petite, je fais du tri à 100%, j'essaie d'acheter le moins de plastique possible. J'ai été éduquée là-dedans, bon, pour le coup, oui.
D'éteindre les multiprises, de réduire la consommation d'eau, d'électricité. Chez les gens, j'éteins chez les lumières quand ils sont allumés tout le temps.
C'est bien, c'est super.
Est-ce que ça vous pousse à faire quelque chose ?
Pas spécialement.
Alors à mon échelle, oui, bon, le tri sélectif et toutes ces choses qu'on essaye de mettre en place, mais très honnêtement, à mon échelle, encore une fois, j'ai l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, quoi.
Vous croyez que c'est à nous de faire des efforts ? Ça, quand tu vois avec les grosses industries, ils ont des machines qui font 10 000, 15 000 watts. C'est comme pour l'électricité en ce moment, ou le gaz, t'as vu, c'est à nous de faire des efforts, mais c'est pas à nous de faire l'effort, quoi, je pense pas.
À manger au naturel, à ne pas jeter d'ordures n'importe où. Pourquoi ne pas revenir à prendre sa douche avec du savon de Marseille et un rinçage de cheveux avec un bon jus de citron, comme le faisait si bien ma grand-mère ?
J'avais un petit projet dans ma tête, c'est de dire à tout le monde de planter des plantes. Par exemple, on est 7 milliards sur Terre, les 5 milliards de personnes devront au moins planter une plante dans leur vie pour produire encore plus d'oxygène.
Rajouter des poumons à la Terre, quoi.
Voilà, ouais, franchement, c'est une belle expression.
Je trouve que les jeunes sont trop timides. On les entend pas assez.
Ado Radio, viens dire ton mot.
Tu trouves pas qu'on devrait prendre le micro ? Je pense que si on se met à parler, on sera tous écoutés. Allez les jeunes, prenons la parole.
Ado Radio, allez viens dire ton mot. On t'écoutera.
Et pour finir, comme on dit, il n'y a pas de monde sans diversité. Et d'ailleurs, le recueil de tous ces témoignages, de tous ces avis, nous l'a montré. Mais s'il y a bien quelque chose que l'on retient, c'est l'importance de la solidarité entre nous, de la créativité et de l'espoir, bien sûr.
L'espoir, c'est la vie.
On remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission, et notamment Yaya, Félix, Robert, Iliane, Manon, Enzo, Jean-Jacques et Naïra. À bientôt avec Wakadi à la Maison des Ados.